La 16 en Charente, ici en direct de l'espace lunette du salon du jeu d'Angoulême, la 5e édition. Je suis toujours avec Romain Big Daddy.
Bonsoir. Yes, toujours et ensemble.
Toujours ensemble. Et là, nous n'avons pas un invité, deux invités, mais trois invités. Nous avons tout d'abord avec de la galanterie, nous avons Escape Yourself. Et madame
Laetitia.
Et Laetitia. Bonsoir Laetitia, bonsoir. Bienvenue derrière le micro de la 16. Nous avons également Damien Chauveau de Aurora Game Studio.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Et également Armand, qui est créateur de prototypes de jeux. Voilà. Romain, je te laisse diriger.
je te vois arriver. Ouais. Allez, c'est pour moi.
Salut. C'est pour toi.
Alors, pourquoi pas, on va rebondir tout de suite sur le...
Enlève-le parce que... Oui, vous pouvez enlever vos... C'est l'endroit...
C'est l'endroit où on risque rien.
Les micros, ils sont juste
autour de nous. J'avais envie de commencer, c'est vrai, par le prototype, oui, par rapport à nos invités d'avant, puisque juste avant, en fait, on a reçu un peu toutes les ludothèques qui venaient donc se présenter dans les coins, donc pour toutes les familles de joueurs, mais pas que les familles, les grands, les petits, et on s'était dit que justement, peut-être faire des petites connexions entre vous pour que, si ça les intéresse, peut-être prendre et mettre en service des prototypes et les tester, tout simplement. Qu'est-ce que vous avez comme prototype aujourd'hui à nous présenter ?
Alors, moi, je suis venu en fait avec deux prototypes.
Oui.
Donc, un premier qui est plutôt de type, on va dire, expert, c'est-à-dire plus pour les joueurs un peu aguerris, des parties d'une heure et demie. Et après, un prototype plus familial. Donc, je vais plutôt parler de celui-là parce que il est plus accessible et plus facile à expliquer aussi. Donc, c'est un jeu d'adresse, d'équilibre, qui est vraiment adapté pour les enfants jusqu'à l'âge de l'apéro, on va dire.
Oui.
Parce que c'est un jeu. Parce que c'est un jeu. Ouais, ça arrive parfois.
Quel âge l'apéro pour les enfants?
Ouais, pour les enfants, là, j'ai testé en fait 7-8 ans, pas l'apéro, le jeu. Mais 7-8 ans, ça commence à passer plutôt bien. Il y a très peu de texte et voilà, c'est un jeu qui se joue bien, justement, qu'on peut sortir assez facilement. Qui joue pendant 20 minutes. Et j'ai voulu différencier, varier un peu plutôt que de rester sur des jeux experts qui peuvent parfois être un peu.
Comment on crée un jeu comme ça?
Pardon ?
Comment on crée un jeu ?
Alors, je pense que ça dépend. Il y a autant de façons de créer des jeux qu'il y a d'auteurs.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui vont peut-être plus partir sur une mécanique de jeu, un gameplay, et puis après tenter de l'habiller. Et puis d'autres qui vont faire l'inverse. Moi, je suis plutôt de cette, je suis plutôt la deuxième catégorie d'auteurs. C'est-à-dire que moi, j'aime bien écrire une histoire, dessiner, comme je suis illustrateur aussi, dessiner des cartes, même s'il n'y a pas de mécanique de gameplay. Et après, d'essayer de faire un jeu autour de ça. Parfois, c'est uniquement une mécanique comme ça qui nous plaît. Bah, pour le jeu de dextérité, par exemple, c'est vraiment tombé sur ma table comme ça, en train de bricoler des cubes, des tuiles, et puis je les posais, et puis je fais, on va pouvoir faire une tour, et puis finalement, pourquoi pas le faire avec d'autres gens. Donc ça dépend, et même je pense que un auteur va pas forcément avoir la même façon de fonctionner en permanence.
D'accord. Et trouver ses inspirations un petit peu, ouais, ça dépend de chacun, quoi.
Oui, ouais, c'est vraiment. Bah, on parle souvent des mondes de l'imaginaire, mais il y a ceux qui sont très focus sur les livres, par exemple l'écriture. Moi, je regarde des séries, je lis des BD, je lis des mangas, je lis n'importe quoi, du Lovecraft, plein de choses. Et tout ça va nous amener parfois à. On a envie de représenter à travers un jeu, on a envie de représenter un petit.
Une ambiance, un univers.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. Un bout de cet univers et de cette ambiance. Je pense que tu vois, par exemple, Damien, à travers Ibris, qui parle des dieux grecs, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il retranscrit énormément de références, c'est très référencé, c'est des jeux qui sont plein d'histoires, plein de dieux et de tout ce qu'ils pourraient faire, de leurs pouvoirs, etc. Et ça, c'est important, je pense, aussi pour les joueurs.
Un peu de mythologie, un peu de mélange de plusieurs univers, c'est ça ?
Deux, pardon.
De mélange de plusieurs univers.
C'est oui, parfois, loin, ouais. il peut y avoir plusieurs univers, oui, tout à fait. Ouais. Ouais.
On va passer la parole à Laetitia, parce que je crois que Laetitia, alors c'est pas qu'elle est pressée, c'est qu'il y a des gens qui l'attendent. Elle n'est pas pressée.
Je suis demandée.
Elle est très demandée.
C'est bon signe en tout cas.
Laetitia, alors vous, c'est le escape
du jeu Grandeur Nature.
Oui, ouais. Un jeu d'évasion, Grandeur Nature.
Escape game, c'est ça?
Oui, un escape game.
Alors, c'est le truc à la mode en ce moment.
Oui.
C'est parallèle aux jeux de plateau et aux jeux de rôle, on va dire.
Mm-hmm. Oui.
Comment vous êtes arrivé à monter un Escape Yourself?
Alors, ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est qu'Escape Yourself, c'est la plus grande franchise d'Escape Game de France.
Bien.
Voilà. Donc, Escape Yourself, donc on a un peu plus de 35 établissements en France.
Ouais.
Chaque Escape Yourself est indépendant. Donc, on va payer la franchise, mais on fait ce qu'on veut, en soit, dans nos Escape Games. Là, on est implanté sur Angoulême depuis décembre 2017, dans le centre-ville. Et on a décidé ça sur un coup de tête, en fait. On s'est levé un matin, on s'est dit, tiens, on va ouvrir un Escape Yourself à Angoulême.
Ouais, et il y en a un deuxième aussi. Il y avait pas une histoire avec l'adresse du site internet?
Si, effectivement, j'ai mon concurrent direct, Code 60, qui est à Champigny, oui.
Oui, qui vous avait renvoyé les clients, c'est ça, pour tout un week-end?
Alors, c'est moi qui lui avais... Le stagiaire s'était trompé de numéro de téléphone et sur ma vitrine, il y avait son numéro de téléphone à lui.
Encore le stagiaire.
Et voilà, et donc il a reçu pas mal d'appels de gens qui étaient devant chez moi. Parce que face à la crise Covid, on a dû fermer notre accueil. Donc on ne peut pas accueillir les gens. On est obligé de fermer nos locaux et ils sonnent.
Ah oui, d'accord.
Pour pouvoir entrer. Donc, sauf qu'ils appelaient en fait Code 60.
Code 60. C'est vous qui l'avez monté, Laetitia, le Escape
oui,
Yourself?
Oui, j'ai fait partie du projet de... Ouais.
Vous l'avez fait toute seule ou à plusieurs? Comment on monte?
Alors,
un
Alors, je suis la responsable.
Ouais.
Après, j'ai un gérant au-dessus de moi qui est mon grand frère. Donc,
d'accord.
Ça reste une histoire de famille un peu.
Tout
voilà.
À fait.
On a trouvé le local en juin 2017. On a fait tous les travaux. Et on y a installé 4... Donc maintenant, nous possédons 4 scénarios dans l'Escape Game.
Bien.
Plus un scénario visio, où vous vous rejoignez au travers d'un ordinateur. Voilà, on s'est adapté face à la crise. On l'a créé en 2021. Il est créé de toutes pièces par notre groupe, donc par Angoulême, et voilà.
D'accord. C'est vous qui choisissez les scénarios et tout ça?
Non. La franchise dispose d'un... On a un catalogue,
ouais,
de 32 scénarios de disponibles. Après, on peut créer nous-mêmes nos scénarios. Ce qui s'est passé pour la dernière illusion en visio, c'est nous qui l'avons 100% créé. Et voilà.
Comment on fait un escape game?
Il faut avoir un esprit tordu pour créer un escape game.
Ouais, déjà.
Déjà. Et après, c'est toute une marche à suivre. C'est la création d'un synopsis, d'un scénario, des énigmes, de la salle en elle-même. C'est vraiment beaucoup de travail. La création d'un scénario, ça met entre 1 et 3 ans. Un scénario complet.
Ah oui.
Oui.
J'attendais le mois.
Non. 3 ans.
Ouais. Ouais.
D'accord. Et après, les pièces, elles sont aménagées en décor. Comment ça se passe?
Oui, alors moi, je dispose de, comme je vous ai dit, 4 scénarios. Donc, j'ai 4 thématiques différentes. J'ai de l'autre côté du miroir, vous êtes propulsé dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai Piégé, où vous êtes kidnappé par un tueur en série.
Peut-être plus pour les adultes, alors là.
Un peu plus, ouais, effectivement.
Ceux qui prennent l'apéro très jeune.
Ça
rejoindre après le jeu du prototype.
J'ai Bonnet Dan, où vous êtes des cancres en classe de CM2 et vous devez récupérer vos mauvais bulletins avant qu'ils atterrissent chez vos parents.
Ah, c'est bon,
et
ça.
Après, j'ai
c'est
mon énorme. Scénario le plus compliqué, qui est le manoir d'Ernestine, où vous héritez du manoir de votre tante qui est décédée récemment, mais qui n'est pas tout à fait partie.
Ah.
On est sur des scénarios de 60 minutes, qui sont donc suivis par un game master, un maître des jeux. Qui vous suit à distance pour pouvoir vous envoyer quelques indices ou quelques coups de pouce dans votre jeu.
Et c'est vous qui le faites?
Je fais partie de l'équipe Game Master, oui, mais après on a 4 salles, donc 4 Game Master à l'Escape Game.
Il y a plusieurs personnes. Oui. Peut-être donner l'adresse où on peut vous trouver. En tout cas, je suis sûr que nos auditeurs, les scénarios et le téléphone. Oui, parce que j'imagine qu'il faut réserver un petit peu en avance.
Oui, il faut téléphoner. Alors, donc nous déjà, on se situe dans le centre, la rue piétonne, au 45 Terre rue RG.
Très bien.
À Angoulême, après, oui, en plein centre. Donc voilà. Après, on a donc notre site internet où on peut réserver. Donc c'est escapeyourselfangoulême.fr.
Très
et
bien.
Le numéro de téléphone, je vous donne le bon.
Merci.
05 16 29 04 35.
Eh bien, très bien.
Merci en tout cas à vous.
Et Facebook également, les réseaux sociaux.
On est sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. On est partout.
Voilà. Et Escape Yourself.
Voilà, même si on va sur le site général de Escape Yourself,
il y a des petits liens qui vous indiquent tous les Escape Yourself en France et vous pouvez aller.
Il y en a combien, rappelez-moi?
35 établissements. Donc c'est pareil, ce qui est cool, c'est qu'en plus on possède une carte fidélité valable dans toute la France.
D'accord.
Vous faites 5 scénarios, vous avez le 6e gratuit. Voilà.
Bon, d'accord, bah c'est bien.
Très bien. Et en plus, c'est vrai que c'est sympa si tout le monde dans chaque établissement écrit un peu ses propres scénarios. Oui. Ça permet de varier un petit peu.
Oui, oui. J'imagine, c'est toujours les mêmes qui se retrouvent avec le 6e. Ça peut arriver.
Non.
Non. Enfin, en tout cas, merci beaucoup.
Merci à vous.
On va vous laisser rejoindre vos joueurs qui vous attendent.
Voilà, ça va, ils sont là.
Ils sont juste là.
Ah, c'est...
Merci beaucoup en tout cas et à bientôt.
À très bientôt. Merci à vous.
Merci.
Voilà. Voilà. Une fois de plus, on reste entre mecs. Hein. C'est ouais. Vraiment le. Ouais. Alors, vous allez vous partager. Bah non, vous avez à chacun un micro.
Allez.
Qui veut prendre le casque comme il veut. Oui, c'est celui qui est le plus loin, c'est le plus logique. Merci. Voilà.
Voilà, aucune logique.
Aucune logique. Damien Chauveau, bah merci d'être là.
Alors merci.
Vous êtes
le studio de développement Aurora Game Studio. Voilà. On est un studio de développement depuis 2016 basé sur Angoulême. On réalise trois grandes branches d'activité. On a une activité jeux vidéo, on fabrique des jeux vidéo qui sortent sur console, PC et console de salon comme Switch, etc. On fait du développement pour on fait de la brique technologique pour différents studios, donc des studios d'animation ou des entreprises comme des CNS, enfin voilà, ce genre de choses, donc de l'industriel. Et puis à côté, on a une branche de développement de jeux de plateau qu'on a développé depuis maintenant deux ans et demi. Après la création de notre premier jeu, on a décidé d'aller jusqu'au bout, de le faire jouer dans différentes conventions, salons. On a gagné un prix avec ce jeu au Flip de Parthenay, donc un festival quand même assez important où j'ai pu rencontrer Armand d'ailleurs là-bas.
D'accord.
Et puis ensuite, comme on a gagné un prix, on s'est dit bon, on va aller jusqu'au bout et ce projet, on l'a amené sur une plateforme de financement participatif, donc Kickstarter, où on a réussi notre projet, on a levé des fonds, ce qui nous a permis donc de développer notre jeu depuis un an et demi maintenant, et actuellement il est en production en Chine. D'accord. Avant de pouvoir l'envoyer chez chacune des personnes qui a contribué pour avoir le jeu en face de leur porte.
Alors voilà. Vous avez dit fabrication en Chine tout à l'heure, on a eu des c'est le truc à la mode hein. La relocalisation, vous n'avez pas réussi à le faire fabriquer en
France, c'est juste
en
que par rapport à la topologie de jeu que l'on a, oui. C'est un jeu du type expert avec beaucoup de jetons, des figurines, oui. du plastique,
ce que j'ai
dit. C'est simple, en fait, le savoir-faire, on l'a absolument plus.
On l'a plus.
En fait, on a
un jeton en plastique.
Ah mais on a absolument plus du tout ce savoir-faire en Europe. Il faut savoir qu'en Europe, un des plus grands usines de fabrication, c'est Treffel, donc c'est une usine en Pologne qui fabrique notamment tous les puzzles que vous avez en Europe. Hein, c'est eux qui fabriquent aussi certains jeux de société que vous pouvez retrouver dans les supermarchés. C'est eux aussi. C'est un des plus gros et même eux, ils sous-traitent les figurines en Chine, par exemple, ou les éléments pions, ou les éléments métal aussi. En fait, on a simplement plus le savoir-faire. Si aujourd'hui, je voulais faire mon jeu en Europe, il aurait un coût qui serait simplement absurde. Il vaudrait en fabrication 10 fois plus que mon prix de vente.
Parce
qu'on n'a simplement pas le savoir-faire.
Ouais, donc il faudrait
réindustrialiser, redonner le savoir-faire, mais exactement la même problématique que l'on a grâce au Covid, qui a permis de montrer qu'en pharmaceutique, qu'en métallurgie, qu'en plein de domaines, en fait, on a délocalisé ce savoir-faire, qu'on l'a perdu. Donc du coup, il faut réindustrialiser, réapprendre ces métiers pour pouvoir les réimplanter et avoir des carnets de commandes qui permettraient à des studios comme nous de pouvoir localiser, fabriquer en Europe et notamment en France. Nous, on préférerait faire ça ici, mais c'est juste impossible.
Vous n'avez pas le choix.
On n'a pas le choix.
Voilà.
Et votre jeu de plateau, donc il va bientôt sortir, comment s'appelle-t-il ?
Alors, c'est un jeu de plateau qui s'appelle Ibris, du type expert, donc c'est pour des joueurs aguerris, comme disait Armand tout à l'heure. On joue un dieu de la mythologie grecque, dans un univers sublimé qui va mélanger un peu de steampunk, un petit peu comme ce super film sur l'Égypte ancienne, Stargate, qui va mélanger l'Égypte avec le côté un peu plus futuriste. Là, ce serait ça avec la Grèce antique, en fait. Et chaque joueur va contrôler un dieu, et l'objectif, c'est d'essayer d'avoir son développement personnel le plus important à la fin de la partie pour être le dieu de l'Olympe. Voilà.
D'accord.
Et oui, c'est le teasing
non,
dingue.
C'est très bien, ouais.
Avec une voix suave. Hein. C'est ça.
C'est bien vendu. Vous allez peut-être, comme vous êtes éditeur, vous allez peut-être éditer Armand.
Alors, nous,
comment
actuellement, comment ça se passe ? Nous, on est vraiment pour l'instant une toute petite maison d'édition.
Je veux me faire éditer. Armand ou moi ?
Alors, nous, pour l'instant, on édite et on crée nos propres jeux. Alors, c'est vrai qu'une des volontés de développement serait plus tard de pouvoir, ou sera suivant, d'éditer des jeux d'autres auteurs. Alors, pour l'instant, on est nous-mêmes nos propres auteurs. Et après, c'est un des objectifs futurs. Pour l'instant, on développe nos jeux, puis après, on verra les jeux de personnes, s'ils vont fitter, comme on dit, s'ils vont correspondre à notre ligne éditoriale.
Oui, tout à fait.
Nous, en fait, on a un credo qui est plutôt créateur d'univers. Comme disait Armand, nous, dans notre processus de fabrication, on a quelque chose qu'on appelle du cognitive design, c'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire avant toute chose, sur lequel on va adapter des mécaniques qui sont cohérentes avec l'histoire. Beaucoup de jeux, notamment des jeux à l'allemande, vont avoir plutôt une mécanique. Et cette mécanique, ils vont ensuite l'habiller pour y coller un thème. On pourrait y coller n'importe quel thème.
Oui. Ouais.
Bah nous, en fait, ce serait pas possible de prendre l'Égypte ancienne et de le plaquer parce qu'il y aurait des incohérences en termes d'action, en termes de feeling, de ce que ressentiraient les joueurs, en fait. Donc là, il y a un vrai travail après de développement qui se fait là-dessus, qui va prendre du temps et qui va se ressentir à travers les illustrations, à travers le matériel qui est choisi, à travers, tout le procédé de mécanique de jeu. Donc ça, c'est un procès. Le process est ultra important et intéressant suivant ce qu'on veut faire passer comme message à travers un jeu.
Oui, c'est quelque chose à la demande, vraiment. Les piliers du jeu, c'est pour ce jeu et pas pour un autre.
Exactement.
Il ne pourrait pas être développé à l'infini.
Oui, c'est pas comme si il faisait un jeu de loi, il y met collé un thème derrière.
Il y a certains jeux qui possèdent donc une mécanique, ce qu'on appelle des core mechanics, sur lesquels après on vient y coller des thèmes. Alors je vais en prendre un qui est très connu, par exemple, qui va être Monopoly. Monopoly, si vous voulez toute la collection de Monopoly, il vous faut un gros PEL. Parce que, pour le coup, si vous voulez la version Game of Thrones, puis la version Zelda qui vient de sortir, Star et puis Wars, voilà, et Star Wars, compagnie. Etc. Alors là,
on rigole votre beaucoup femme, sur Monopoly parce qu'en fait, c'était la ligne presque conductrice de la journée.
Bien sûr.
Où j'ai osé parler du Monopoly parce que effectivement, ça fait partie des jeux de plateau.
C'est un pilier en fait. Il faut absolument le digérer. Il est important dans notre culture parce qu'en fait, on parle de jeux de plateau, mais en fait, c'est pas le vrai nom. On joue à des jeux de société modernes, à des jeux contemporains. C'est le vrai nom en fait des jeux auxquels tous ces gens qui sont ici qu'ils jouent, est-ce que vous pouvez jouer chez vous, c'est des jeux contemporains. Et ils viennent en fait d'un socle très important qui a été initié il y a vraiment une centaine d'années au travers du Monopoly, mais à travers aussi d'autres catégories de jeux, par exemple Wargame. Peut-être vous connaissez des noms comme Warhammer ou Games Workshop, qui sont en fait des héritiers des jeux historiques qui ont été inventés.
Donjons et Dragons.
Donjons et Dragons, qui est un des autres piliers qui est issu du jeu de rôle. Ouais. Donc là, vous en avez déjà évoqué trois. Vous en avez un quatrième qui est le jeu de cartes à collectionner. Et en fait, cette familia, en fait, c'est vraiment les parents du jeu actuel qui est contemporain, en fait. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un amalgame qui se fait avec le jeu moderne, mais en fait, c'est simplement les héritiers de ce qu'on nous a déjà donné et que vous avez certainement joué chez vous quand vous avez joué à un Risk, quand vous avez joué à un Monopoly, quand vous avez joué à une bonne paye. Bah, ça vient encore de ces jeux-là, en fait.
Ouais, les trois piliers du jeu contemporain, hein, c'est ça. Les cartes,
le jeu de rôle et puis le jeu de guerre, en fait.
De guerre. Oui, parce que le Monopoly.
Il a fallu passer par ça, en fait, pour pouvoir évoluer par la suite. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ces piliers-là, on en serait où ? On ne sait pas vraiment quoi. Mais après, il y a par exemple Magic, qui est un des piliers au niveau du jeu de cartes. Ça, c'est tous ces éléments qui nous ont amenés maintenant à ce jeu contemporain. Donc effectivement, maintenant, on moque un peu le Monopoly, parce que c'est vrai qu'on jette des dés et puis on avance, on pourrait mettre n'importe quoi. Mais pour le Risk, c'est pareil. Il y a le Risk Game of Thrones, il y a le Risk Star Wars.
C'est ça.
Ils existent tous, donc on plaque des mécaniques dessus. Maintenant, on est passé à un autre niveau. Ce que disait Damien, c'est qu'on va réfléchir, mais à l'extrême, sur comment ça va réagir, quelle histoire va être racontée, comment les mécaniques vont s'imbriquer avec l'histoire pour que le joueur il ait l'impression de jouer ça. Il a l'impression de jouer les personnages qui sont racontés dans l'histoire. C'est ça qui est.
En augmentant le degré d'exigence, les joueurs en fait se sont habitués et maintenant on va avoir du coup des gens qui vont être prêts et qui vont être demandeurs à une appétence vers ce genre de jeu, vers des choses du coup très extrêmes pour avoir des jeux très complexes. Et donc du coup on a des gammes de catégories de jeux qui sont apparues. Familial plus, expert, très expert, améritrage, on va avoir des catégories, des subcatégories.
Oui. Légendaires.
C'est ça. Et qui vont en fait du coup donner des franges qui vont même arriver jusqu'aux jeux de niche. On a des jeux qui sont très niches parce que du coup, quand on le regarde de l'extérieur en tant que parent, on peut être inquiet de se dire mais qu'est-ce que c'est comme chose, etc. Alors finalement, c'est uniquement un descendant d'une de ses fondations en fait initiales.
Et tout à l'heure, vous avez dit, donc chez Aurora, vous faites aussi du jeu vidéo.
Oui.
Et bah, quel titre, par exemple, vous avez sorti
Alors, notamment, on a travaillé sur des jeux où on était uniquement en prestation, qui sont sortis. Alors, par exemple, il y avait Mechanicus, qui était un jeu de Warhammer 40 000, hein, fait par Bulwark Studio, où nous, on a réalisé une partie des éléments 3D, ce qu'on appelle les assets 3D, les animations. Et puis nous, ça faisait 3 ans et demi qu'on était sur notre propre titre, hein, qui s'appelle Nefasto Misadventure, où on joue un petit personnage d'un très mauvais jeu vidéo qui va tomber dans sa console. Et du coup, il a 2 heures temps réel pour s'en sortir, et il fait bugger tout le système, en fait. Et ça, c'est notre prochain jeu là, qui va sortir sur Switch, après 3 ans de développement. Là, il est en fabrication actuellement, là, en fait, et il devrait sortir vers février-mars en boutique.
Très bien,
et sur le shop, ouais. Et là, on a récupéré la licence d'un vieux jeu Super Nintendo qui s'appelle Nightmare Busters, qu'on est en train de refaire intégralement, en fait, le moderniser avec les codes de 2021 pour le sortir dans 18 mois de développement, donc dans un an et demi.
C'est 18 mois aujourd'hui pour développer un jeu vidéo ?
C'est extrêmement variable. Oui. Là, par exemple, nous, c'est 18 mois, on a eu une aide de la région, la Nouvelle-Aquitaine nous a aidés à hauteur de 100 000 euros quand même, donc c'est plutôt pas mal, et c'est ultra variable. Les jeux qui sont vraiment très compliqués, les AAA que vous pouvez voir dans le commerce ou autre, c'est des jeux qui demandent entre 3 et 4 ans de développement, entre 300 et 600 personnes. Nous, sur un jeu comme le nôtre, on est 7 personnes et ça va être sur 18 mois, donc l'échelle aussi va être à l'échelle de l'ambition qui est fait. Nous, on est vraiment sur du jeu indépendant, c'est-à-dire qu'on a des messages à passer, on a un credo avec la société qui est vraiment raconter des histoires, qui est vraiment de notre ligne éditoriale. Donc du coup, on fait des jeux très atypiques mais qui nous ressemblent.
Oui, c'est donc, pas des blockbusters, vous cherchez pas à faire du chiffre.
Non, en fait, l'objectif c'est déjà de faire quelque chose qui nous plaît, mais qui va aussi plaire à un public qui va être érudit à ça. C'est-à-dire que nous, l'objectif c'est si quelqu'un prend du plaisir dessus, bah, nous l'exercice est gagné en fait.
Ok.
Les jeux vidéo aujourd'hui ça passe à Angoulême comme les dessins animés, parce que je dis souvent, en exagérant, tous les dessins animés qu'on voit à la télévision aujourd'hui, ils sont passés au moins un moment donné à Angoulême.
Bien sûr, bien sûr.
Angoulême, pour le jeu vidéo, si ça commence ou c'est...
Ouais. Alors il y a une différence majeure, c'est que Angoulême est devenue la ville de l'animation parce que les majors et les grands créateurs de studios en fait ont fait que grâce aux différentes subventions, aux aides qu'on peut avoir dans la région, on va mettre des pôles de fabrication pure, donc des usines de dessins animés. C'est ce qui se passe en fait concrètement, à part quelques exemples qui peuvent être différents, mais globalement ça va être des sociétés qui sont basées sur Paris qui vont avoir les usines de fabrication de dessins animés ici. C'est d'abord ça en fait, avant toute chose.
Une question d'argent.
C'est une question, voilà.
Subvention.
C'est un montage en fait. Sur le jeu vidéo, il y a quelque chose un peu différent. C'est que nous sommes la seule ville qui possède l'Angemine. L'Angemine aujourd'hui, c'est l'école nationale donc du jeu vidéo, qui est vraiment, c'est vraiment le cursus national. C'est du public. Donc pour pouvoir rentrer, il y a en fait un label qui existe depuis quelques années parce que on fabrique ici aussi des créateurs de demain, que ce soit en jeu vidéo game design, mais que ce soit aussi en jeu de plateau game design. Antoine Boza, qui est un auteur extrêmement connu, qui a fait Seven Wonders notamment, ou Takenoko, il vient de l'Angemine en fait, d'une promotion de l'Angemine. Et donc on va avoir beaucoup de créateurs qui viennent de ces promotions et puis sur d'autres métiers qui sont issus du jeu vidéo ou du jeu de plateau. Illustration, animation, son, programmation. Voilà. Et donc on a ce savoir-faire, ce qui fait qu'Angoulême, progressivement au fur et à mesure des années, vous le voyez certainement au travers des émissions que vous faites, vous voyez une évolution qui se met, une dynamique où on a l'école maintenant, 42 qui arrive, avec la piscine, tout ça, on va avoir de plus en plus d'écoles qui se mettent en place parce qu'on devient une alternative à des grandes villes, où on va avoir des cursus qui vont permettre, à partir d'un point d'entrée, sur une prépa par exemple, de basculer en animation si on veut, de basculer en jeu vidéo si on le souhaite, d'aller dans le cinéma si on le désire. Et donc, on a énormément de possibilités à partir d'un tronc commun.
Ouais. Voilà, ça, c'est pas fermé, c'est propre à Angoulême.
Et là, du coup, c'est quelque chose qui commence à devenir propre à Angoulême. Ouais.
Ça crée des viviers, quoi.
Et ça crée du coup des viviers. Donc nous, en tant qu'entreprise, on est très contents de pouvoir prendre des stagiaires, de pouvoir les amener, et puis de pouvoir voir aussi des talents de demain.
Oui.
Voilà, nous, dans notre
réservé, se les mettre sous le.
En fait, c'est faut être honnête. Oui. Par exemple, Ubisoft, quand ils viennent aux promotions de l'Angemine, ils viennent avec leur filet et ils prennent tous les programmeurs, quoi. C'est la problématique. Donc voilà.
C'est pour ça qu'il faut peut-être les ferrer avant.
C'est pour ça qu'on fait des stages, c'est pour ça qu'on discute avec eux. Nous, dans notre société, on est plusieurs associés. Et dans nos associés, on a deux jeunes qui sont un peu moins jeunes maintenant, mais qui viennent de l'EMCA.
D'accord.
Donc vraiment de l'école, l'école de dessin animé, de storyboard, d'animation, quoi.
Ok. Et là, pendant ce salon donc, du jeu, vous avez, comme vous êtes en quête un petit peu d'originalité dans vos produits, qu'ils soient en jeu vidéo ou en réel, j'imagine, vous avez peut-être vu des prototypes, où vous avez dit, là, il y a une idée, là, il y aurait peut-être un sujet à... sur un échange comme apparemment vous connaissez entre
avec ouais. Armand par exemple on fait les commerces alors, 10% Armand.
Alors je te vends ton jeu
comme alors du coup bah, merci, comme, hein. Comme avec Armand on est des créatifs donc ouais. En fait on se nourrit de tout ouais, ce voilà. Qui se passe en fait et du coup la nourriture de l'âme elle va passer à travers les échanges à travers ce qu'on va voir mais des fois on peut avoir une idée qui est complètement absurde parce qu'on est en train de regarder un pied de chaise en fait et du coup au final c'est comme ça qu'on fonctionne. Je pense que tu fonctionnes un peu de façon organique comme moi donc c'est ouais, ultra empirique quoi. On voit un truc, on va le travailler jusqu'au bout d'arriver à un concept ou une idée. Mais à l'extrême inverse, on peut avoir une idée en disant « Ah, j'ai envie de parler d'un truc sur la Bible, un truc judéo-chrétien, je vais faire un jeu de plateau là-dessus, on va mettre des anges avec des ailes mécaniques et tout. » Et puis ça va partir en live comme ça. Et à partir de là, il va falloir commencer après à structurer, à mettre un cadre et mettre des codes pour pouvoir aussi, parce que notamment...
Oui, parce que c'est vrai qu'une idée de base peut partir, vous, si vous faites un peu tout, dans un jeu vidéo ou
tout
dans un jeu de plateau.
Tout à fait. Après, la grande différence, c'est qu'on a une société et donc on a aussi des réalités financières oui. Où on doit aussi se contrôler sur les idées et sur ce que l'on a. Donc on va essayer après de passer par des process pour très rapidement voir s'il y a une viabilité en fait sur un projet. Mais nous, comme on fonctionne de cette façon-là, qu'on est très libre et horizontal, on a tous des idées. On les met dans des viviers, dans des endroits comme ça où on va un peu les stocker, on va les ressortir plus tard en disant « Ah, mais là, du coup, tu avais pensé à ça et je pense que c'est le bon moment. » Et c'est pour ça aussi que vous voyez des fois des styles ou des genres de jeux qui vont arriver. Par exemple, il y a eu beaucoup de jeux sur le Far West, puis après, c'est beaucoup de jeux de l'espace, puis après, c'est beaucoup de jeux que sur Mars, etc. Donc, en fait, on va avoir des modes, des trends, des tendances. Et du coup, l'objectif, c'est toujours de réussir à se dire « Est-ce que dans 2 ans, ça va être ça ?» Parce que c'est à peu près le temps d'un développement d'un jeu. Donc, il faut avoir un peu une vision de ce qui va se passer, un peu comme de la mode en fait.
Ouais, ouais,
et sortir un jeu, c'est beaucoup plus compliqué qu'on peut le croire, parce qu'il y a aussi une dimension économique où il va falloir penser à tous ces facteurs-là pour que il y ait une rentabilité, une viabilité qui va se faire, en prenant en considération la fabrication et les coûts. Comme on est aujourd'hui dans le Covid, on s'en rend encore d'autant plus compte que c'est pas facile.
Vous êtes passé en télétravail ou pas ?
Alors nous, on est une partie de l'équipe qui était passée en télétravail, tout à fait.
Ouais.
Et là, après, on fait une partie en studio parce qu'on a de la chance d'avoir un studio assez grand pour pouvoir avoir une partie où on est quand même nécessairement obligé de communiquer physiquement.
Oui, parce qu'il faut quand même des ordinateurs puissants pour faire du dessin animé ou du développement de jeu.
C'est
les
ça.
Gens, ils n'ont pas forcément chez eux.
C'est ça, exactement. Voilà.
Et petite question de joueur là, je pense que je vais vous la poser à tous les deux. Comment dire en musique, un banger, c'est une cartouche, votre jeu favori, s'il y en a un ou plusieurs, allez.
Ah, vraiment,
contemporain.
Il m'a passé la patate chaude le temps de réfléchir. Il y en a tellement. Moi, après, j'aime bien faire des fois des tops sur les jeux de plateau. Après, au niveau des jeux vidéo, moi, ça va être très très simple. Je suis un gros fan de Zelda.
Ah.
Donc, du coup, pour moi, Zelda, c'est surtout le dernier. C'est un peu le jeu ultime du jeu vidéo auquel je peux rejouer, même si je connais la fin. Je connais tout, j'y rejoue juste pour me balader. Donc, le jeu vidéo, ça sera Zelda. Breath of the Wild, principalement. Mais les autres aussi, je les aime tous.
Jeux de plateau.
Et jeux de plateau, ça, c'est un peu embêtant best-seller. Parce qu'il, ça évolue. Aussi,
les goûts changent.
Ça va être très classique.
Allez, deux.
Deux, j'ai le droit à deux.
Ou à trois.
Pour 2021, je vais faire un peu de pub quand même, mais d'une Imperium.
Très bon
c'est
jeu.
Un jeu qui... Déjà parce que je suis un fan aussi de la franchise de Dune et c'était génial d'avoir un vrai jeu sur Dune qui arrivait. Ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu de jeu sur Dune. Les anciens étaient vraiment anciens.
Dune le retour, hein, parce que c'est on en a beaucoup parlé.
De Villeneuve. Hein.
Voilà, mais après ça participe, c'est-à-dire qu'il y a le film, donc du coup les producteurs ont dit il nous faut un jeu de plateau parce que c'est l'avènement un peu c'est l'air.
Ouais.
En ce moment c'est le jeu de plateau, donc du coup ils ont mis les sous, ils ont fait appel à un véritable créateur, un véritable auteur qui est Paul Denen, qui a fait qui a un auteur
très bon jeu, Clank, tout ça.
Clank, et donc il a fait un jeu aux petits oignons mais sur demande et c'est fabuleux, c'est génial d'avoir ça. Parfois c'est pas le cas, mais là c'est le cas. Puis après, sinon, je sais pas.
Tu veux me repasser la patate,
alors,
peut-être.
Non,
je vais la reprendre avant. Comme pour les auteurs de livres, où il y a les Marc Lévy, les on va dire ceux qui font des best-sellers régulièrement. pareil pour dans le jeu de plateau, il y a des auteurs
qui on a des auteurs qui sont bankable, on a des auteurs où en fait ils pourront même faire du caca, ça va se vendre, et puis on va avoir de l'auteur aussi qui va prendre son temps, qui va être dans son coin, on va attendre un peu sa pépite, et on a des noms qui sont très connus comme ça, et suivant les catégories aussi de jeux, par exemple si je prends vraiment l'expert euro, donc les jeux calculatoires un peu à l'allemande, très compliqué, faut bac plus 8, et bien là par exemple on va avoir les jeux Lacerda. Vital Lacerda est un nom très connu qui va avoir ses fans, on attend tous le jeu de Lacerda ou le jeu de Pfeiffer. Donc il y a des noms comme ça qui sont très bankable. En France, on a la team Kadema, où on va retrouver donc Théo Rivière, Antoine Boza, Laurent Leblanc, je crois, qui sont vraiment des noms.
Antonin, ou Quentin.
Je sais plus le dernier à chaque fois, j'ai un peu du mal. Hein. Et là voilà, ça c'est des personnes, on attend toujours leur jeu. Ils sont des auteurs maintenant, parce que bah aussi il y a un principe d'auteur enfin qui est mis en place pour reconnaître que c'est un vrai travail d'auteur de faire un jeu. Et que le travail d'édition est un autre métier, eh bien eux, ils arrivent régulièrement et donc ils peuvent en vivre. Mais globalement, ce n'est pas forcément le cas de tous les auteurs de jeux.
C'est comme dans la bande dessinée ou dans l'art en général.
C'est pareil, on peut vraiment faire des analogies avec la bande dessinée.
Tout le monde galère, 80% galère, 20%
travail. Il y en a 5 qui sortent de tout. Ouais. Voilà.
Et puis on a l'impression que, comme pour la bande dessinée, c'est rigolo, vous faites un métier où, quand tu décides de te lancer dans ce métier-là, vous jouez ou vous dessinez toute la journée. Sauf que quand tu joues 300 fois ou 400 fois au même jeu, il y a des fois où en fait t'en as un peu marre.
Mais c'est nécessaire.
Bien sûr,
c'est partie du processus.
C'est répéter le même truc. Et comme quelqu'un qui dessine et qui va dessiner pendant 2 ans, qui va rester sur son histoire, faut être un peu un ours, quoi. Faut être un peu un ermite. Faut se fixer des contraintes. Il faut se fixer des. T'as des objectifs. Tu dis voilà, il faut que j'arrive à dessiner. Les mecs dessinent 12 heures par jour. Ils sont sur leur planche et pour à la fin ressortir un petit chef-d'œuvre. Je pense par exemple là à Babelais qui a fait Shangri-La, qui est un chef-d'œuvre ultime, et quand tu vois comment il bosse, il a bossé 2 ans sur sa BD, tu dis ce mec c'est un monstre.
Ouais.
Et du coup on va dire, après il y a des gens qui vont dire c'est facile, vous faites des petits Mickey. Non, va faire tes lignes de fuite, va faire tes dessins, tes planches qui sont pas valables, que tu vas refaire.
C'est un travail de titan.
C'est un boulot de titan, vraiment.
Quand on voit juste le résultat final, c'est et ça. Qu'effectivement que ça buzz ou machin, on se dit bon c'est simple à faire, comme ceux qui les influenceurs sur YouTube.
Bien sûr, mais il y a une perception qui est toujours.
Il y en a un qui réussit.
Bien sûr.
Et c'est quand même du boulot aussi. Il faut faire du montage, il faut refaire la prise 50 fois. Voilà, on est moins touché par un acteur hyper bien payé qui va faire 15 fois la même prise. Ça peut être très fatigant, ou plonger dans l'eau froide parce que la scène, le machin, etc.
L'exige, ouais, bien sûr.
L'exige, et puis après, on va dire. Faire de la BD, c'est faire des petits Mickey. Moi, des fois, ça me hérisse un petit peu en tant que.
On sent rarement que tu es.
On a senti un peu le.
Oui, je te sens un peu à cran, là.
On a senti le hérissement un petit peu.
Et donc, la cartouche classique, moi, je l'attends.
Alors, moi, personnellement, en jeu de plateau, un de mes coups de cœur, très clairement, qui m'a fait plonger dans le jeu moderne aujourd'hui, ça va être Horror Arkham, je suis un grand fan de Lovecraft.
Le jeu de plateau.
Ah non, le jeu de plateau. On part en 2003 ou 2004. Non, 2006. 2006, Kevin Wilson, qui va être un nom du coup lié à un auteur américain qui va réussir à faire une nouvelle étape dans le jeu contemporain. Il a sorti donc ce jeu sur l'univers de Lovecraft, qui était en fait un très vieux jeu sorti à la fin des années 80.
D'accord.
Et donc il a fait ce jeu sur l'univers de Lovecraft qui a clairement relancé une partie de l'industrie, du pan de l'industrie. FFG, donc Outre-Atlantique, qui est une très très grosse boîte de jeux de société qui avait été rachetée par Asmodée, donc qui est un très gros acteur du monde du jeu de société. Ils ont lancé ça avec un autre jeu qui s'appelait Descent. Et clairement, il y a un avant et un après, autant en volume de vente que sur la qualité des jeux. Exactement. Et donc c'était un auteur qui était très bankable, qui malheureusement est tombé un peu plus dans l'oubli et qui revient de façon un peu plus indépendante. Ça c'est vraiment mon coup de cœur en jeu de plateau. Et après en jeu vidéo, effectivement Zelda sur NES reste une de mes expériences de fou, le Zelda Game Boy
à base.
Voilà. Mais après je suis un enfant aussi de la PlayStation bien évidemment, donc j'aurai une centaine de jeux, mais je suis aussi un collectionneur de jeux vidéo malheureusement, et rétro gamer d'autant plus. Ah là là, j'en ai trop malheureusement. Et je crois que les jeux arcade restent une de Street Fighter 2 malheureusement il va être sur le podium parce que c'est génial.
Ah ça fait plaisir. Benji, tu voulais
Je voulais vous remercier
d'être
venu derrière le micro de la 16. Cette émission sera évidemment disponible en podcast. On va y arriver, hein, c'est dur au bout de 6 heures d'émission. Moi je propose à Romain que je vais aller faire un petit tour.
On
a du sans fil, on va en profiter.
Bah ouais, il faut.
Damien, tu pourras pas m'entendre parce que je vais pas parler à ta tête de loin. Il y aura juste Armand qui va m'entendre.
Non, mais je lui passerai le.
Voilà, parce que vous faites les gestes. Bah moi je vais aller voir parce que les organisateurs. On avait prévu de les interviewer à 18h30, mais je crois qu'ils sont très occupés.
Vas-y, on y va à deux.
Le temps de dire au revoir à Armand et
Tout à fait. Bah, bien,
et puis on peut y aller tous les deux, il faut que tu prennes juste le casque.
En tout cas, merci d'avoir présenté votre activité Aurora Game Studio. Et
Armand Texier.
Ouais, voilà, tout à fait. Avec ces deux protos que vous pouvez venir découvrir.
Et sinon, vous pouvez retrouver ça. Bah, French Meeple, en fait, c'est un studio qu'on a. On est deux personnes, on s'est regroupés sous le nom de French Meeple. Et puis sinon, Robot Moderne, c'est ma page de review où je fais des articles. Et puis bah, je relaye régulièrement les projets là-dessus aussi.
D'accord. Super, French Meeple, c'est ça.
French Meeple et Robot Moderne.
Meeple ou Meeple ?
Meeple, comme les petits Meeple.
Les Meeple.
Les petits Meeple. En tout cas, vous pouvez aller les découvrir et surtout, bah, venez nombreux toujours au Salon du Jeu. Merci à vous deux, en tout cas.
Merci à vous, surtout. Bonne soirée.
Au revoir.